Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Au programme de cet épisode, l'édition musicale. Le rôle d'un éditeur est essentiel à la carrière du producteur musical. Parfois confondu avec l'éditeur phonographique, les missions de l'éditeur musical sont nombreuses. De la gestion des droits d'auteur à la synchronisation, en passant par la mise en relation d'artistes. L'éditeur est un partenaire privilégié de l'auteur-compositeur. Cet épisode de Let's Prod s'intéressera de près à l'édition musicale et son rôle dans l'industrie d'aujourd'hui. Pour démarrer, nous accueillerons Juliette Metz, directrice générale des éditions Encore Merci et présidente de la chambre syndicale de l'édition musicale. Juliette viendra nous parler du rôle d'un éditeur, de ses missions et de la manière dont il accompagne les auteurs-compositeurs. Pour terminer l'émission, nous vous donnerons quelques astuces pour trouver et signer un contrat d'édition musicale. Voilà pour le sommaire de cet épisode. Let's Prod, c'est parti!
Let's Prod.
Accueillons sans plus attendre Juliette Metz, directrice générale des éditions Encore Merci. Bonjour Juliette, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, pourriez-vous me donner le rôle d'un éditeur musical aujourd'hui ?
Alors, pour moi, le rôle d'un éditeur musical, c'est vraiment d'être une espèce de manager des œuvres, en fait. C'est celui qui travaille avec les auteurs-compositeurs, les autrices-compositrices également, et qui est là pour accompagner la création, donc pour soutenir la création, souvent financièrement parlant, et puis pour permettre aux œuvres de rencontrer leur public, aux auteurs-compositeurs de rencontrer des partenaires. On est là pour accompagner l'auteur-compositeur au démarrage et pendant toute sa carrière et dans l'exploitation des œuvres sur la durée qui a été convenue dans les contrats.
Quand a été créée votre société d'édition Encore Merci ?
Alors, Encore Merci a été créé en 1987 et on a développé l'activité édition à peu près en 1994-95, par là. Et nous, on est spécialisé dans ce qu'on appelle la librairie musicale, donc c'est de la musique pour l'audiovisuel uniquement. C'est un peu le même principe que les photos de stock, si vous voulez, les Getty Images, Shutterstock, etc., mais avec de la musique. Donc on est là avec des catalogues très importants de musique qu'on propose aux producteurs, aux réalisateurs, aux monteurs, et qui pour sonoriser des audiovisuels, que ce soit des documentaires, des émissions de télé, des pubs, des bandes-annonces, des choses comme ça, ils ont besoin de musique qui soit disponible.
Quel est votre rôle dans cette société ?
Alors, j'en suis actuellement la directrice générale, donc j'ai un peu un rôle un peu pivot, aussi bien sur le côté financier, administratif. Je participe à choisir la ligne éditoriale, donc quels sont les projets avec lesquels on va avancer, quels sont les compositeurs avec qui on va travailler. Je dis compositeurs parce que là, vraiment, dans notre partie, il n'y a quasiment pas de femmes, malheureusement, donc c'est principalement des hommes.
Quelles sont les différences entre un éditeur musical et un éditeur phonographique ?
Il y en a un qui travaille avec les auteurs-compositeurs, il y en a un qui travaille avec les artistes-interprètes, les musiciens. Voilà, donc l'éditeur, il est à la base au moment de la création de l'œuvre. Donc l'œuvre, c'est une chanson ou un morceau de musique avec un ou plusieurs auteurs, un ou plusieurs compositeurs. Et à côté de ça, l'éditeur phonographique, c'est celui qui va s'occuper d'éditer l'enregistrement de l'œuvre. Donc le master, et donc là, lui, il va travailler avec l'artiste-interprète, celui qui va interpréter l'œuvre. Donc il y aura un enregistrement de cette œuvre-là. Il peut y avoir plusieurs enregistrements d'une même œuvre qui, des fois, va être réenregistrée par plusieurs personnes avec plusieurs éditeurs phonographiques, mais il y aura un seul éditeur de cette œuvre-là qui peut avoir une vie très longue, plein de réinterprétations, etc.
Comment se rémunère un éditeur musical ?
Alors, il se rémunère sur le droit d'auteur. En fait, le fait de devenir éditeur d'une œuvre, ça veut dire que l'auteur, le compositeur nous cède une partie de leurs droits. Et donc, on va avoir une part sur les droits d'auteur, que ce soit par le biais de la SACEM, qui est la société qui collecte les droits d'auteur en France, ou que ce soit en direct. Il y a certains droits qu'on gère en direct, ce qu'on appelle les droits de synchronisation. Quand quelqu'un veut incorporer une chanson, un morceau à l'intérieur d'un film ou d'une publicité, par exemple, il va y avoir un droit de synchronisation qui va être géré par l'éditeur. Et il y a la même chose côté producteur sur le master, le droit d'incorporation du master dans cet audiovisuel. Donc, on a ce droit d'auteur qui arrive en direct de la SACEM pour toute la diffusion publique, à chaque fois qu'il y a des reproductions sur des disques ou des DVD ou des choses comme ça. Et après, il y a les droits gérés en direct par l'éditeur directement, donc ce droit de synchronisation, et également sur ce qu'on appelle le graphique, la gestion des paroles et des partitions, parce que ça aussi, ça peut rapporter de l'argent, de vendre des partitions ou de monétiser les paroles, l'utilisation des paroles.
Quel type d'artistes et genres musicaux cherchez-vous à éditer en priorité ?
Dans ma société, c'est principalement des gens qui font de la musique instrumentale, parce que c'est un peu ce qui est le plus utilisé actuellement, mais nous, on n'a vraiment pas de genre déterminé puisqu'on est en construction de notre librairie musicale. C'est-à-dire que dans le catalogue qu'on a, ou peut-être il y a à peu près 7000 œuvres actuellement, je crois, un truc comme ça, il y a aussi bien de la musique trailer, instrumentale, super grandiose, épique, etc., que des morceaux de solo piano très minimalistes, que de la musique un peu suspense drama. Voilà, on va essayer d'avoir un catalogue le plus large possible, le plus fourni possible pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Parce qu'en fait, les gens qui travaillent dans l'audiovisuel, tout d'un coup ils vont faire un reportage sur la guerre en Ukraine, et puis après ils vont faire un reportage sur les bronzés à Miami. Il y a besoin de musique de plein de styles différents, de plein de genres différents, et donc on essaie de nous construire en faisant attention à quelles sont les espèces de modes un peu du moment, les trucs les plus qui sont les plus trendy. Et donc voilà, il y a toujours des trucs qui un peu reviennent dans les demandes de nos utilisateurs, et sinon on essaye de construire un catalogue avec une certaine cohérence dans le style musical mais dans le son, dans la manière de présenter les albums.
Comment peut-on trouver et contacter un éditeur musical ?
Il y a plusieurs manières de trouver des éditeurs. Déjà, la Chambre syndicale des éditeurs, c'est csdem.org. C'est là que se trouve la majorité des éditeurs de tout type de répertoire hors classique. Donc, variété, librairie musicale sont membres de la Chambre syndicale des éditeurs de musique, donc csdem.org. Là-dessus, il y a un moteur de recherche avec le nom des éditeurs, donc on peut les contacter par ce biais-là. Ou pour le côté librairie musicale, donc vraiment pour la musique pour l'audiovisuel, là, il y a un autre site qui est une autre association dont je suis vice-présidente qui s'appelle l'Union des librairies musicales. Donc le site, je crois que tout bêtement, c'est uniondeslibrairiesmusicales.fr. Et là, il y a de la même manière une liste des éditeurs de librairies musicales, et donc ils sont tous présents avec leurs coordonnées. Donc avec ces deux sites-là, il y a déjà de quoi faire pour contacter les gens. Alors moi, je recommanderais d'aller sur le site des uns et des autres, de voir un peu quel type de catalogue ils ont, est-ce que ça peut coller ce qu'on a à proposer. Et après, il faut trouver la majeure partie du temps, je crois tout le temps, il y a des mails de contact qui sont disponibles sur les sites, et on peut envoyer un mail pour dire « Coucou, j'existe, j'ai des choses à vous proposer, est-ce que ça peut vous intéresser ?» avec des liens SoundCloud ou autre. Pas d'envoi de CD, ça se fait plus. Lien SoundCloud, c'est ce qui se fait beaucoup. C'est en général vers un site si quelqu'un a déjà son site internet. Voilà.
Quel type de contrat signe-t-on avec un éditeur dans le cadre d'une librairie musicale, et combien de temps dure celui-ci ?
Alors, on signe un contrat de cession et d'édition musicale, qui est le contrat type qui a été rédigé au sein de la Chambre syndicale. Et après, au niveau de la durée, traditionnellement, on signe un contrat sur toute la durée de protection de l'œuvre, c'est-à-dire jusqu'à 70 ans après la mort du dernier auteur. Donc, c'est traditionnellement ça. Il peut arriver qu'il y ait des contrats qui soient plus courts. C'est vrai que c'est rare. Moi, j'ai tendance à penser que il faut partir avec dans une collaboration avec des gens en se faisant confiance et en essayant de trouver comment travailler ensemble, en rectifiant le tir s'il y a des choses qui vont pas. Mais je pense que faire des contrats courts donne pas forcément tellement envie. C'est beaucoup d'investissement et beaucoup de temps en fait passé pour développer un catalogue d'œuvres quand on est un éditeur. Donc le mieux est quand même de s'investir sur le long terme. Donc voilà, en général, pour être tout à fait honnête, c'est plus la durée du copyright qui est de 70 ans après la mort de l'auteur.
Est-il possible d'obtenir une avance à la signature du contrat ?
Oui, ça arrive. Ça dépend complètement du contexte. En librairie musicale, ça se fait pas, c'est vraiment pas trop le... C'est tellement long, la rentabilité d'un projet, parce que en fait, en dehors du fait qu'il y a énormément d'œuvres sur le marché, mais en fait, l'œuvre est mise à disposition et il faut qu'elle trouve son public, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout d'un coup, il y ait des gens qui aient besoin de ce type de musique et qu'elle soit disponible à tel moment. Donc, les avances à ce que j'ai entendu sont très rares, voire inexistantes, il me semble. Par contre, dans ce qu'on appelle la variété, donc la musique plus pop, sont des choses qui se font, oui, à la signature plutôt d'un contrat de préférence éditoriale. Il y a un truc qui existe dont on n'a pas parlé en variété, c'est on fait signer un contrat de préférence éditoriale à un auteur-compositeur pour lui dire, bah voilà, tu t'engages à ce que pendant 3 ans ou 5 ans, maximum 5 ans, toutes les œuvres que tu vas écrire vont être éditées par moi. Et donc, voilà, et c'est donnant-donnant. Donc, de mon côté, bah, je vais investir pour te développer, pour développer tes œuvres. Il y a souvent une avance qui est liée à ça.
En tant qu'autoproducteur, est-il possible de percer sans éditeur musical ?
Ah, c'est toujours possible, bien sûr. Il y a des gens qui arrivent à tout faire tout seul. Après, c'est plus dur. Enfin, voilà, ça demande... beaucoup de chance, ça demande un grand réseau, ça demande beaucoup de travail, c'est forcément plus compliqué. Déjà avec un éditeur, c'est jamais gagné, c'est déjà pas simple. Alors tout seul, on se simplifie pas la vie. Moi, je pense que, je reste persuadée que un éditeur, quand il est bien choisi, qu'on est bien aligné, qu'on est à fond sur le projet et que tout le monde y croit et qu'on se dit qu'on y va et qu'on s'écoute l'un l'autre, qu'on essaye de faire en sorte que le projet soit le plus abouti possible et qu'il puisse correspondre le mieux à la demande générale, voilà, qu'il ait la plus belle carrière possible. J'ai tendance à penser que si on est bien entouré, ça marche mieux, on s'en sort mieux. Un créateur, qu'il soit interprète ou pas, pour moi, son rôle, c'est de créer. C'est pas de faire de la gestion, c'est pas de faire de l'administratif, c'est pas de faire du juridique et des contrats et des dépôts de contrats et des négociations, etc. Pour moi, ça, c'est pas son rôle et chacun devra rester dans son rôle et le faire bien et puis avec une exigence d'un côté comme de l'autre pour que tout le monde soit satisfait du travail qu'on peut faire ensemble.
Merci à Juliette Metz qui vous aura sans doute apporté de nombreuses réponses quant au rôle de l'éditeur musical. Terminons l'émission en vous donnant quelques astuces pour trouver et signer un contrat d'édition.
Let's Prod.
Comme nous l'avons vu précédemment, l'éditeur musical gère les morceaux des auteurs-compositeurs afin que leur création soit le plus possible diffusée et génère ainsi des droits d'auteur. Il s'occupe aussi de la mise en relation d'artistes dans le cadre de collaborations. Avant de contacter un éditeur, il est important de comprendre que votre projet artistique doit avoir un potentiel commercial et de diffusion. Les sociétés d'édition sélectionnent précisément les projets qu'elles souhaitent éditer. Ainsi, vous devrez sans doute contacter plusieurs éditeurs en espérant que l'un d'entre eux veuille collaborer avec vous. Pour obtenir les coordonnées d'un éditeur, une recherche sur Internet peut largement suffire. En parallèle, rendez-vous sur l'annuaire CNMwork et leur site cnmwork.com. Vous pourrez gratuitement vous inscrire et trouver les contacts de l'ensemble des éditeurs français. Ensuite, n'hésitez pas à les contacter par mail pour envoyer vos productions et solliciter leur aide. Expliquez votre démarche et le type de projet que vous souhaitez signer en édition. Pensez à joindre votre presse kit digital, incluant biographie et photos, afin de faire entrer l'éditeur dans votre univers musical. Signer un contrat d'édition discographique n'est pas une chose aisée. Les projets musicaux signés en édition sont en général déjà rentables et avec un potentiel de développement important. Si vous débutez, il est peu probable que vous intéressiez un éditeur. Vous devrez alors vous-même communiquer sur votre projet via les réseaux sociaux et développer votre image. Cela implique une bonne direction artistique, avec la création d'un ou plusieurs clips, d'intégrer des playlists sur les plateformes de streaming, ou même de déjà proposer des concerts à votre public. Vous développerez ainsi votre communauté, aussi appelée fanbase. Au début d'une carrière, les revenus générés par les droits d'auteur seront très faibles, voire inexistants. Un éditeur musical peut donc vous permettre de commencer à en générer, en plaçant vos compositions sur des productions audiovisuelles ou même en radio. Par la suite, les artistes peuvent créer leur propre société d'édition, et ainsi récupérer des droits d'auteur sur d'autres artistes qu'ils éditent. Enfin, pensez toujours à vous faire accompagner par un avocat spécialisé lors de la signature de n'importe quel contrat. Il protégera vos intérêts et vous évitera les mauvaises surprises. C'est tout pour cet épisode. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée. Et en attendant, let's prod !
DJ et du son.